VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui dans un camp militaire de Gao dans le nord du Mali, faisant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés d'après les sources sécuritaires. Le bilan est de 37 morts, a affirmé à l'AFP une source militaire au sein de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. L'information a été confirmée par une source administrative à Gao. Le camp abrite des troupes gouvernementales ainsi que des membres de divers groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville en vertu d'un accord de paix soutenu par les Nations Unies. Toujours au Mali, les magistrats entament une grève illimitée à compter de ce jour. La décision d'aller en grève a été prise par les deux syndicats des magistrats maliens. Les précisions de Cheikh Mohamed Sherif Kone. Il est le président du syndicat autonome de la magistrature au Mali.
Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire voter une résolution contre l'État du Mali par rapport à son manque de respect pour ses engagements internationaux et par rapport à ses violations répétées des principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement se comporte de cette façon. Voici ce gouvernement qui dit on fait comme ça, on accepte. Au moment de l'exécution, c'est d'autres arguments. Donc il faut qu'on en termine avec ça. Nous sommes entièrement décidés et nous sommes prêts à supporter toutes les conséquences.
Cheikh Mohamed Sherif Kone, président du syndicat autonome de la magistrature au Mali. Un millier de touristes évacués de Gambie après la décision du président sortant Yahya Jammeh de décréter l'état d'urgence qui fait craindre des violences dans le pays. Au pouvoir depuis un coup d'état il y a 22 ans, Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle de décembre. Le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, prépare une intervention militaire afin qu'il remette son mandat le 19 janvier, comme le veut la Constitution. Le président élu Adama Barrow se trouve actuellement au Sénégal. Il pourrait être investi comme président à l'ambassade de Gambie à Dakar, qui est techniquement un territoire gambien. Plusieurs centaines de Gambiens ont fui ces derniers jours au Sénégal. Les opérations de secours se poursuivent aujourd'hui dans le nord-est du Nigeria, où un camp de déplacés a été bombardé par erreur par l'armée nigériane, faisant au moins 52 morts et plus de 120 blessés, selon Médecins sans frontières. Hôpitaux publics, médecins, ambulances de Maïdougouri, la grande ville de la région et berceau des islamistes de Boko Haram, étaient en alerte dans le cadre d'un plan d'urgence médicale déclenché par les autorités de l'État du Borno. Les frappes aériennes ont eu lieu mardi à Ran, dans le nord de cet État, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés, forcés de fuir les violences. En RDC, la majorité présidentielle exige la part du lion dans le partage des postes du gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre. Elle demande à la conférence des évêques catholiques, les médiateurs, de tenir compte du poids politique de chaque camp au prorata de sa représentation à l'Assemblée nationale. Christophe Colomoni est le secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie.
Sous les justices de la CENICO, nous ne pouvons pas vous préciser combien de postes, mais nous avons émis ces là de tenir compte de la représentation ou du poids politique des partis en présence. Il serait important peut-être de tenir compte de ce partage-là en passant par une formule mathématique de pondération par rapport à la représentation au niveau du Parlement.
Christophe Colomoni, le secrétaire national du parti du président Joseph Kabila. 6 personnes qui assistaient à une veillée funéraire au Zimbabwe ont été tuées par la foudre alors qu'elles s'étaient abritées sous un arbre pour se protéger de pluies torrentielles, selon la police. Des pluies diluviennes se sont abattues ces derniers jours au Zimbabwe, provoquant des inondations et la mort de plusieurs personnes qui tentaient de traverser des rivières en crue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, dans 2 jours, c'est-à-dire le 20 janvier, Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis. Un des principaux défis de Trump sera d'équilibrer les promesses de campagne qu'il a faites à ses partisans, tout en prenant des mesures pour guérir la nation après une campagne particulièrement rude. Une analyse de notre collègue Jim Malone, reprise ici par Claire Morin-Gibault.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump.
L'étonnante victoire électorale de Donald Trump semble encore un rêve pour certains de ses partisans. Et il a rapidement parlé de réconciliation dans son discours de victoire.
Je dis qu'il est temps pour nous de nous unir comme un seul peuple. United people.
Mais la victoire de Trump a été marquée par des protestations dans tout le pays, de l'Oregon et de la Californie dans l'Ouest, dans sa ville natale de New York et dans le Massachusetts à l'Est du pays. Écoutons une manifestante anti-Trump.
Je suis déçue, il me fait peur.
Il y a également eu des incidents d'intimidation post-électorale ciblant les minorités et les musulmans, une question sur laquelle Trump a été interrogé lors d'une interview pour l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS.
Je suis tellement attristé d'entendre cela et je dis arrêtez.
Réduire la fracture politique est aussi une préoccupation pour le président Barack Obama.
Il est vraiment important d'essayer d'envoyer des signaux d'unité et d'atteindre les groupes minoritaires ou les femmes ou d'autres personnes qui étaient préoccupées par le contenu de la campagne.
Trump a annoncé les principales nominations de son gouvernement, dont le président du Parti républicain, Reince Priebus, et Stephen Bannon, un journaliste très controversé à droite, comme son principal conseiller politique. Le premier test important pour Trump est la composition de son futur gouvernement, dit John Fortier, qui travaille pour un centre bipartisan spécialisé sur les politiques américaines.
Le processus de recrutement d'un gouvernement est important en Amérique et comme c'est un candidat à part, il n'a pas les connexions traditionnelles, ce que les cadres traditionnels d'une administration auraient.
Mais la capacité de Trump à réussir une unité nationale a plus à voir avec le ton de sa rhétorique, selon Molly Reynolds de l'institution Brookings.
Nous avons l'image de Trump que nous avons vu sur les routes lors de la campagne et puis nous avons une version légèrement plus posée de Trump que nous avons vu émerger de temps en temps. Et la question de savoir si cette facette, qui est apparue si peu au cours de la campagne présidentielle, sera celle qu'il montre quand il arrivera à la Maison Blanche. Nous ne le savons pas.
Trump continue d'annoncer les membres de son cabinet. Ses choix donnent déjà le ton qu'il a choisi pour mener sa présidence.
Et Barack Obama tiendra aujourd'hui sa dernière conférence de presse en tant que président des États-Unis, a annoncé la Maison-Blanche. Donc, deux jours de l'entrée en fonction du républicain Donald Trump, la conférence de presse aura lieu à 14h15 heure de Washington et 19h15 GMT. L'ex-président américain George H.W. Bush, âgé de 92 ans, a été à nouveau hospitalisé à Houston. On rapportait aujourd'hui les médias, victime dans le passé de plusieurs problèmes de santé. L'ancien chef d'État de 1989 à 1993 est malade, mais se trouve dans un état stable et va bien, a indiqué son chef de cabinet, Gene Baker, au journal Houston Chronicle. Coupe d'Afrique des Nations, deuxième journée dans le groupe A ce mercredi. Après avoir été accroché par la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture, le pays organisateur, le Gabon, devra aujourd'hui se montrer plus conquérant contre le Burkina Faso. Duel donc au sommet entre les étalons et les panthères à Libreville. Cyril Bayala, qui joue au milieu de terrain pour le Burkina Faso, s'attend à un match difficile.
Nous nous préparons en fonction de l'adversaire et on espère que le deuxième match sera en notre faveur pour assurer notre qualification pour le deuxième tour. Les Gabons sont sur les terres et ils vont tout faire pour pouvoir au moins passer le premier tour. C'est aussi notre objectif, donc ça sera un match très engagé. Donc on s'attend à un match costaud, on s'attend à quelque chose de lourd, donc on se prépare psychologiquement et physiquement pour les affronter.
Cyril Bayala du Burkina Faso. Pour le deuxième match de la poule A, la Guinée-Bissau tentera de déjouer les pronostics contre le Cameroun. Hier dans la poule C, le Ghana a réussi son entrée dans la compétition. Les Black Stars, grâce à un pénalty transformé en première mi-temps par André Ayew, ont pris le meilleur sur l'Ouganda par le plus petit des scores, 1-0. Suffisant cependant pour les vice-champions d'Afrique en titre pour prendre la tête du groupe D localisé à Port-Gentil et ce en raison du match nul, 0 but partout entre le Mali et l'Égypte. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.